Guerre et paix. Troisième partie, chapitre 1, scène 14. Pierre, affolé de terreur, sauta sur ses pieds, retourna en courant à la batterie, le seul endroit où il put trouver un refuge contre ces désastres. En y rentrant, il fut surpris de ne plus entendre tirer et de voir la batterie occupée par une masse de nouveaux venus qu'il ne parvenait pas à reconnaître. Le colonel était penché sur le rempart comme s'il regardait par-dessus le parapet et un soldat, se débattant entre les mains de ceux qui le tenaient, appelait au secours. Il n'avait pas encore eu le temps de comprendre que le colonel était mort et les soldats faits prisonniers lorsqu'un autre fut tué devant ses yeux d'un coup de baïonnette qui lui traversa le dos. À peine était-il arrivé dans le retranchement qu'un homme à figure maigre et brune, ruisselant de sueur, en uniforme gros bleu, une épée nue à la main, se jeta sur lui en criant. Pierre se gara instinctivement et saisit son agresseur par l'épaule et par la gorge. C'était un officier français. Laissant tomber son épée, il prit à son tour Pierre au collet. Ils se regardèrent ainsi quelques secondes et sur leurs figures si étrangères l'une à l'autre se peignait l'étonnement de ce qu'ils venaient de faire.
« Est-ce moi qui suis son prisonnier ou est-il le mien ?»
pensait chacun d'eux. L'officier inclinait vers la première supposition, car la main puissante de Pierre lui serrait la gorge de plus en plus. Le Français avait l'air de vouloir parler, quand un boulet passa en sifflant au-dessus de leur tête, et il sembla à Pierre que celle de son premier prisonnier avait été enlevée du cou, et il le baissa rapidement. Il en fit autant de son côté et lâcha prise. Le Français, peu curieux de décider lequel des deux était le prisonnier de l'autre, courut à la batterie, tandis que Pierre descendait le mamelon, en trébuchant contre les morts et les blessés, et croyait, dans son épouvante, les sentir s'accrocher au pan de son habit. À peine arrivé en bas, il vit venir à lui les masses compactes de Russes qui lui paraissaient fuir et qui couraient en se bousculant vers la batterie. C'était l'attaque dont Yermolov s'attribua le mérite en assurant à qui voulait l'entendre que son bonheur et sa bravoure l'avaient seul rendu possible. Il prétendait avoir jeté à pleine main sur le mamelon les croix de Saint-Georges dont il avait rempli ses poches. Les Français qui s'étaient emparés de la batterie s'enfuirent à leur tour et nos troupes les poursuivirent avec un tel acharnement qu'il fut impossible de les arrêter. Les prisonniers furent emmenés de la batterie. Parmi eux se trouvait un général blessé, qui fut aussitôt entouré de nos officiers. Des masses de blessés, français et russes, les traits défigurés par la souffrance, se traînaient péniblement ou étaient portés sur des brancards. Pierre remonta sur la hauteur, mais au lieu de ceux qu'il y avait reçus tout à l'heure, il n'y trouva que des tas de morts, inconnus pour la plupart. Il y aperçut aussi le jeune lieutenant, toujours assis sur la même position au bord du parapet et replié sur lui-même dans une mare de sang. Le soldat, aux joues enluminées, avait encore des mouvements convulsifs, mais on ne songeait pas à l'emporter. Pierre s'enfuit en courant.
« Ils vont sûrement cesser,
se dit-il.
Car ils doivent avoir horreur de ce qu'ils ont fait. »
Et il suivit machinalement le défilé des brancards qui s'éloignaient du champ de bataille. Le soleil, caché par un rideau de fumée, brillait encore plus haut de l'horizon. Là-bas, à gauche, et surtout près de Semenovski, une masse confuse s'agitait dans le lointain, et le roulement incessant de la fusillade et de la canonnade, loin de diminuer, ne faisait qu'augmenter la violence. C'était comme la suprême expression du désespoir d'un homme qui réunit toutes ses forces pour pousser son dernier cri.